Started out with butterflies on a velvet afternoon, with flashing eyes and promises caught in hell too soon. In a place called Ixia, with its pumpkin oval moon, it started out so nice. Genie Chalderayan, sea purple harmony, while Koki hid secrets into seashells, and even the ocean laughed beneath that celestial canopy, because it started out sooner.
Et oui, vous êtes donc toujours avec l'émission Zoom Écologie, et plus exactement la bande à Bébert, qui est là donc tous les derniers jeudis du mois. Et donc ce soir, donc on va parler donc de la COP20. Et d'ailleurs, pour la musique, vous venez d'écouter donc Sixto Rodriguez et donc
Sylvie Rodriguez.
Comment?
Sylvie Rodriguez ou Sixto?
Sixto Rodriguez.
Ah, d'accord.
C'est il y a un film qui en parle. C'est un musicien des années 70, si je ne me trompe pas, et en fait qui a été complètement oublié. Il est aux États-Unis. Il n'a pas réussi aux États-Unis, mais a été connu en Afrique subsaharienne, enfin en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, plus exactement, où il a fait un tabac là-bas, sauf que personne ne savait qui c'était. Et on l'a découvert récemment, il y a à peine quelques années. Enfin, lui-même a découvert qu'il était très connu là-bas. Et bon, en gros, c'était un peu compliqué, mais c'est un peu la maison de disque à qui il avait enregistré qui s'était fait un peu de l'argent sur son dos. Pour faire un peu vite, c'était plutôt, c'est ce que le film, en tout cas, sous-entend. Voilà. Donc, ça fait très Bob Dylan quand on l'entend. C'est assez impressionnant. C'est vrai que c'est un...
C'était très
comme
joli.
Quoi, ouais. Et maintenant, il est très connu. Beaucoup plus. Par rapport à la COP 20, donc Dalila, donc tu es de Alternativa COP 20. Quand on parle de COP 20, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que ça évoque ? En fait, la conférence des parties pour le climat aura lieu cette année à Lima, au Pérou.
Donc la COP 20, c'est la conférence sur le climat, c'est ça ?
Oui, exactement. Des parties, en fait, c'est une conférence qui est issue des Nations Unies. Et donc, c'est où il y a tous les pays du monde se réunissent pour faire des engagements et pour descendre leurs émissions de gaz à effet de serre.
Donc, c'est leur 20e conférence.
Voilà. 20... Et jusqu'à maintenant, on sait que les choses sont plutôt empirées.
Pour nous, les signaux qu'on a, c'est le climat. Ça va plutôt mal. Il y a le changement climatique, donc le réchauffement climatique, pour être plus exact. Donc pour nous, ça va plutôt mal.
Voilà, donc les émissions des gaz à effet de serre n'ont pas baissé.
Oui.
Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui n'attend pas grand-chose des COP en général, des conférences des parties, donc de ces réunions-là.
Et donc, du coup, alors, vous, à Paris, donc, vous mobilisez sur ces questions-là.
Oui, exactement.
Et pourquoi, alors, vous mobilisez s'il n'y a rien à en attendre ?
Oui, justement, on ne se mobilise pas pour la COP 20. On l'a appelé alternative. En fait, voilà, je t'explique d'abord qu'est-ce que c'est Alternativa.
Qu'est-ce que c'est Alternativa ?
Voilà, COP 20. Donc, Alternativa, tu sais que c'est le mouvement qui est lancé à Vizi, une dynamique qui est née à Vizi. Pour la justice sociale et la justice climatique. Donc, les mots d'ordre, c'est « changeons les systèmes et pas les climats ». Donc, j'ai fait partie d'Alternative Aide de France. J'adhère complètement à ces idées. Et comment la COP 20, ça se passe à Lima ? Donc, on a créé un groupe ici, justement, pour faire des activités en parallèle à ce qui va se passer à Lima, mais pas pour faire les échos de la COP officielle, mais plutôt pour dénoncer en fait de ce qui se passe en Amérique latine par rapport à plusieurs thématiques. Donc par exemple on va parler de l'extractivisme, on va parler de l'agriculture, en fait la poussée de l'agriculture industrielle, on va parler de la déforestation, de la répression contre les peuples qui luttent pour défendre leur territoire, parce qu'en Amérique latine, il y a énormément de répressions qui se font, en fait, avec la complicité... C'est les gouvernements, avec la complicité des gouvernements. Et les gouvernements. Hein, au Pérou, c'est les gouvernements qui répriment pour défendre les entreprises, les transnationales.
D'accord, donc là, on parle vraiment du Pérou, c'est pas tous les pays d'Amérique latine.
Non, on va parler de plusieurs pays de l'Amérique latine. Donc, il y a, par exemple, dans l'organisation de la COP, de Alternativa COP 20, donc il y a Alternativa de France et des associations latino-américaines qui travaillent ici, qui agissent ici en France. Voilà, donc on a les collectifs des Péruviens, l'association Gilberto Bosques, il y a l'association Viva Yasuni, donc plusieurs associations qui travaillent ici pour sensibiliser la population française par rapport à ce qui se projet inutile, polluant en Amérique latine. Et voilà, donc c'est ça l'organisation.
C'est quoi les projets, quand on parle de projets inutiles, nous en France, c'est vrai qu'on pense... à Notre-Dame-des-Landes, au barrage du Testé, donc on a déjà fait des émissions là-dessus. Mm-hmm. Et en Amérique latine, des projets de ce type
oui,
aussi
il y a un qui est en train de se...
Des grandes luttes, on va dire, par rapport à ces projets-là
Des grandes luttes, je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, plutôt les luttes, c'est contre les projets extractivistes.
D'accord.
Qui sont aussi inutiles.
Ça, qu'il y a beaucoup de
richesses. Qui sont aussi inutiles dans le sens que, en fait, on extrait, les grosses entreprises vont extraire des matières premières et laisser des terres complètement polluées. Et chassent aussi les paysans, chassent les populations autochtones de leurs terres.
Il y a des exemples donc au Pérou à ce niveau-là
Tu sais, en fait, au Pérou, Je suis retournée au Pérou, j'étais partie il y a 20 ans, pardon, il y a 12 ans.
Ouais.
En 12 ans, en fait, la population à Lima a augmenté de plus ou moins, enfin, quand j'étais partie, il y avait 26 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, au Pérou. Et Lima, à Lima, il y avait 7 millions, si je ne me trompe pas. Et maintenant, on arrive presque à 10 millions, seulement à Lima, hein. Donc, on voit que Lima grandit énormément et que les petits villages sont en train de se dépeupler. Donc, c'est d'accord. Parce que les projets minières, par exemple, ont énormément augmenté depuis les années 90. Et ça se fait que, en fait, les populations sont chassées de leurs terres. Donc, les populations qui vivaient à l'époque de l'agriculture, donc, ils voient ces terres polluées. Donc, il y a eu ils ont été chassés de leurs terres de façon, de différentes manières, en fait, pas du tout légales. Et on les paye une quantité très moindre d'argent que les gens partent de leurs terres. Et finalement, ils vont où? Ils vont à la capitale, ou ils vont dans des grandes villes. Et voilà, donc c'est ça ce qui, pour répondre à ta question.
J'imagine ceux qui vont extraire ces matières premières, c'est surtout des multinationales.
C'est des multinationales minières, par exemple.
C'est des multinationales occidentales, du coup
Oui, par exemple...
Plutôt d'origine occidentale, je dirais.
Oui. Donc il y a des multinationales canadiennes.
Oui.
Donc l'extraction minière, je crois qu'ils sont assez... forte et avec des multinationales des États-Unis
je crois qu'en plus les projets miniers il y a une partie une grande pollution sur l'eau, non c'est ça,
ouais. Oui, énormément.
Que ça pose localement et du coup, ça fait que ça pose beaucoup de problèmes en termes de ressources aussi.
Oui, exactement. En fait, déjà les pays, le Pérou par exemple, a perdu en 20 ans plus ou moins, les 30% de ces. En fait, les montagnes.
Les montagnes, oui.
Voilà. Comment est-ce que... Là, ça m'échappe. Bon, voilà. Donc, il a perdu déjà plus ou moins les 30% des montagnes qui ont...
D'accord. À cause de l'extraction.
À cause déjà du changement climatique. Donc, on va souffrir énormément d'eau. Donc le Pérou c'est un pays qui va souffrir énormément qui va avoir un problème d'eau.
C'est quoi? C'est les raisons des sols.
Qu'il y a déjà. En fait les montagnes.
Oui.
Donc il y a beaucoup de populations qui vivent qui ont leur source d'eau des montagnes.
D'accord.
Voilà. Donc je trouve pas le tout.
Plus que c'est logique, en fait.
Exactement. Et donc, maintenant que les montagnes commencent à perdre leur niveau de glace, pour la déglaciation, c'est ça. Voilà, donc le Pérou, c'est un pays qui va énormément souffrir de l'eau, qui souffre déjà d'un problème d'eau, et ça va encore empirer avec les changements climatiques.
Donc, si j'ai bien compris, c'est directement lié au réchauffement climatique, qui fait que donc les glaciers fondent.
Voilà.
C'est ça. D'accord.
Voilà. 30% des glaciers. Ont fondu, c'est ça. Merci d'accord. Beaucoup pour trouver mon... Voilà, c'est ça.
Et pour revenir à la COP20, ici en France, donc, j'ai vu qu'il y avait plein d'événements pendant toute la semaine, en fait. Il n'y a pas que Alternative à COP20.
Pendant 11 jours, en fait, justement, Alternative à COP20, il faut comprendre... Voilà. Alternative à COP20, c'est le nom de l'événement.
De l'événement du week-end,
donc, c'est
ça? Ou de toute
voilà,
la...
Pendant 11 jours... En fait, du 1er à 11 décembre, ou 11 décembre, on va avoir plusieurs activités. Donc, ça commence avec le premier, justement, avec une conférence sur les droits de la terre-mère dans la Constitution bolivienne. Et puis les deux, on a une conférence sur l'eau. Donc les trois, on est liés à Alternativa avec le lancement du Tour de Tandem. Les quatre, il y a une conférence sur l'agriculture et changement climatique, si je ne me trompe pas. Ensuite, les cinq, six, les cinq, il y a une projection de films sur en fait des Marie-Monnie Robin.
Sacrée croissance.
Non, ça c'est le dimanche.
C'est le dimanche, d'accord.
Oui, exactement. Les cinq, c'est les déportés du libre-échange. Donc on parle justement de l'ALENA, comment l'ALENA a fait que plus de 3 millions, si je ne me trompe pas, des paysans ont été chassés de leurs terres, justement, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et puis on a aussi une soirée festive, les cinq. Ensuite, les 6 et les 7, on aura les villages des alternatives. Tout ça, ça se passe à la MIC en Île-Saint-Denis. Et on aura les villages des alternatives. Les 6 matins, il va y avoir des conférences, des vidéos, en fait des tables rondes sur l'extractivisme, justement un cas du Pérou, du Guatemala. L'après-midi, il aura de... c'est Indécocide qui organise un après-midi sur aussi sur
Indécocide qui
est invité
et invité. Et donc Écocide, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent qu'il y ait une reconnaissance de droit qui est un peu équivalent en fait au génocide, mais par rapport aux écosystèmes.
Que les crimes de la nature contre la nature soient reconnus.
D'accord.
Il me semble, je ne suis pas exactement, mais c'est simple que ça. Et je trouve que c'est très intéressant. Exactement. Et non, en fait, ils ont présenté un programme super intéressant qu'il faut, vraiment aller les 7 toute la journée.
Une question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est que l'extractivisme? J'ai entendu utiliser ce terme plusieurs fois.
Oui, en fait, l'extractivisme, c'est toute activité qui prend, qui extrait les ressources de la terre sans rien le rendre, si on pourrait dire comme ça, et en ayant des conséquences assez lourdes. Voilà, donc les activités minières, même les activités agricoles, car on plante des pesticides, les activités agricoles industrielles, des types industriels.
Oui, alors j'ai lu que c'était Nicolas Cercieron et Philippe
Bouy, ils seront les 8.
Comité d'action.
C'est ADTM,
contre la dette du tiers-monde.
Oui,
c'est
ADTM. Donc, où ils seront les 8. Donc, ils vont parler justement des dettes extractivisme. Et Philippe Bouy, c'est low-tech, high-tech, je crois. C'est ça ?
Comment ?
Sur les alternatives à l'extractivisme. Donc, ensuite, les 9, c'est les fausses solutions. Donc, cas des. Ils vont parler des plus projets en cas du Pérou, justement. Donc, les 10, il va y avoir un rassemblement à la place de la République, des 5h jusqu'à 8h. Et c'est très important, en fait, ces rassemblements, c'est en lien à ce qui se passe à Lima. Je n'ai pas expliqué tout à l'heure qu'en fait, pendant la COP20, il y a les sommets de peuples qui s'organisent à Lima. Donc, en parallèle, qui ne fait pas partie non plus de la COP officielle. Donc, nous, on est en lien avec le sommet des peuples.
Donc, c'est un sommet alternatif.
Exactement, c'est un sommet alternatif. Donc, c'est la population civile péruvienne qui est mobilisée. Donc, il y a beaucoup de paysans, associations paysannes qui sont mobilisées là-dedans. Et nous sommes en lien avec eux. Et justement, ils sont en train d'appeler à une mobilisation internationale. Parce que ces jours-là, les 10 décembre, c'est les journées internationales des droits de l'homme. Et c'est vrai qu'il me semble qu'ici, ça passe un peu inaperçu. Mais par contre, en tout cas, en Amérique latine, c'est très important parce que les droits de l'homme sont bafoués et violentés chaque jour. Et donc, ils vont faire une grande marche, les 10... ça sera entre 5h et 8h l'après-midi ici, et à Lima, c'est 11h et 12h l'après-midi. D'accord. Et non, et justement, nous sommes en train, en fait, nous s'appelons à cette marche-là pour être en solidarité avec la mobilisation à l'EMA, mais aussi, en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, qu'on a des, en fait, ça suffit, on est toutes les luttes sont ici ensemble, et il y a un lien de solidarité. Donc voilà, qui est, nous avons des solutions. Vous montrez aussi ce qui se passe, donc quelques chiffres par rapport à combien de victimes du changement climatique, combien de victimes par rapport en fait, combien des gens jusqu'à maintenant sont soit ont été soit tués, soit emprisonnés. Pour défendre justement leur. Alors que c'est tout le contraire, c'est complètement bizarre. Hein. C'est ouais, des gens qui défendent, qui défendent l'eau, qui défendent la terre, qui défendent là, ils sont plutôt traités comme des criminels et ils sont sanctionnés. Et donc l'idée, c'est montrer tout cela, que ça existe, en fait, ça. Et qu'on est avec eux, donc on est solidaires et qu'on se mobilise partout.
D'accord.
Voilà. Et puis les 11, on va finir avec une visioconférence avec la société civile péruvienne pour voir, en fait, déjà pour savoir quels ont été les résultats de la COP 20.
On les aura déjà, donc le.
C'est, ça finit les 12, donc le 11, on aura déjà.
Oui, on saura.
On saura. Voilà. Bon. Et aussi, il va y avoir une conférence sur la gouvernance. Donc, ouais, on est en train encore de l'organiser, mais voilà. Et puis, on finit hein, le 11 avec ces soirées.
D'accord. Donc, c'est un programme assez rempli sur toute la semaine. Et en plus, j'ai vu que c'était réparti dans plusieurs lieux, en fait,
exactement.
À Paris.
En fait, les 5, 6 et 7, en fait, on sera à l'île Saint-Denis, à l'amique de l'île Saint-Denis. Et les autres jours, ça va être en plusieurs lieux à Paris. Donc, on commence à Montreuil, le 1er décembre. Voilà, ensuite, on sera, voilà, donc, dans, oui, on n'est pas que dans un lieu, on a essayé un peu d'être dans différents endroits aussi pour avoir un public différent.
Et donc Alternativa, c'est un mouvement qui se mobilise. Donc, je veux comprendre que Alternativa COP 20, c'est une branche, on peut dire, de Alternativa Île-de-France, ou c'est un collectif différent en soi.
Oui. En fait, Alternativa, l'organisation, parce que Alternativa COP 20, on l'appelait ainsi à cet événement qui va du 1er au 11 décembre.
D'accord, c'est un événement. En fait,
exactement. Mais pour organiser cet événement, depuis, on s'est réunis depuis plusieurs mois déjà. Et donc, on voit la preuve avec les programmes. Et dans l'organisation, justement, de cet événement, on a Alternativa Île-de-France et des associations latino-américaines. Donc, cette association latino-américaine. Donc, et ces associations latino-américaines ne font pas partie d'Alternativa Île-de-France. Donc, c'est ça qui fait assez riche cette organisation. Qu'il y a des gens qui ne sont pas impliqués à Alternativa Île-de-France, mais qui ont rejoint l'organisation de cet événement parce que les associations latino-américaines sont très impliquées, en tout cas, par rapport à leur pays d'origine et à l'Amérique latine en général.
Et quelles sont les attentes, donc, du coup, que vous avez par rapport à, quand on parle de justice climatique, des choses comme ça, qu'est-ce que vous attendez un peu?
Ce que nous attendons de cet événement, par exemple, oui. C'est sensibiliser la population par rapport au lien qu'il y a entre les pays riches, comme ça, et les pays du Sud. Parfois, moi, j'ai entendu dire, mais pourquoi, en fait, il y a énormément de choses, vous présentez beaucoup de choses qui se passent en Amérique latine, à qui, c'est pas très important. Mais pourtant, c'est important. En fait, si on pense à énormément de choses qu'on utilise dans notre vie quotidienne, en fait, les matières premières viennent du Sud, donc elles sont énormément liées. Donc, pas seulement de l'Amérique latine, aussi de l'Afrique. Donc, je crois que c'est très important de savoir aussi, en fait, d'aller de voir un peu plus loin de ce que les yeux voient. Donc, lorsqu'on achète un téléphone un téléphone. Voilà. Donc, il y a les matières premières qui viennent des pays du Sud. Et je crois qu'il faut... je comprends bien, justement, quand tu parlais tout à l'heure de la publicité. La publicité nous présente un danger joli, branché. Voilà, on existe parce qu'on a quelque chose, on achète toujours, on est toujours à la mode. Alors que, en fait, si on se demanderait comment a été produit, et après où, à la fin, en fait, à la fin de ce produit, où ça va être... amener, recycler. Donc là, je crois que quand les gens prennent, en fait, prennent conscience, je pense que quand même ça fait que... je crois que c'est important. Donc l'idée, c'est ça, justement. C'est pour ça que dans les programmes, tu vois qu'on va parler pas mal de l'extractivisme et des luttes, en fait. Il y aura pas mal des films sur les luttes des populations en Amérique latine qui défendent leur territoire. Et c'est ça, l'idée c'était ça, c'est faire, c'est sensibiliser par rapport à ce qui est en fait tout, une bonne partie des choses qu'on a ici, d'où vient, à quel prix on était, en fait, on les a exploitées. Qu'est-ce qui reste pour les gens de là-bas? On croit souvent que parfois on les aide quand on importe les matières premières, on aide les gens. Moi, je suis péruvienne et par exemple, je t'ai parlé du cas des quinoa. Voilà, les quinoa. Maintenant, tout le monde consomme du quinoa. Donc, alors que depuis 4-5 ans, on s'est mis, voilà, tout le monde veut consommer la quinoa. La quinoa, c'était les céréales miraculeuses, etc., etc.
Mais
qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour les Péruviens, par exemple, parce que les quinoas, ça vient surtout du Pérou et de la Bolivie. Donc ça signifie que, par exemple, déjà les prix du quinoa, il était 3 soles, si je ne me trompe pas, il y a 3 ou 4 ans, et maintenant on peut l'acheter jusqu'à 25 soles au Pérou.
En 4 ans?
Oui,
c'est au Pérou.
Donc c'est énorme. En fait, les prix ont augmenté énormément. Et donc, pour les Péruviens, c'est difficile d'acheter. Pour un Péruvien, voilà. Donc, ça pourrait être entre 20 et 25 soles, ça dépend de la qualité de la quinoa. Et ce n'est pas que ça. En fait, l'autre problème, c'est qu'aussi, on pousse à la monoculture.
Voilà. Ouais, bah oui.
Donc, on pousse à la monoculture. Et donc, finalement...
La monoculture, c'est quand on produit que...
Qu'est un produit... En fait, par exemple, la monoculture du cacao, parce que, voilà... Et nous, on n'est pas gourmand du chocolat, par exemple. Et nous, quand je parle de Péruvien, on n'est pas gourmand du chocolat. Mais pourtant, une bonne partie de nos terres sont dédiées à la culture du cacao. Donc, nous, on n'est pas... des très gros consommateurs du café, mais vraiment pas. Hein. Il y a quelques régions où les gens boivent du café, mais dans l'ensemble des Péruviens, ce n'est pas une habitude de boire du café. Et mais pourtant, le café, c'est les premiers, en fait, la première culture qui est cultivée au Pérou. C'est la culture qui prend la plus grosse quantité de terre. Voilà. Et c'est justement lorsqu'on parle de justice sociale et de justice climatique, je crois qu'il faut aller, en fait, il faut penser ce qu'on fait, en fait, ce qu'on produit dans les pays d'où viennent les matières premières, en fait, ce qu'on produit en termes de social, des contaminations ambientales, des environnementales, pardon. Et voilà, en termes d'utilisation d'eau. Donc, il y a plusieurs cas. Justement, les 7 matins, on aura un conférencier qui va parler du cas des asperges. Parce qu'il y a beaucoup d'asperges qui viennent qui viennent du Pérou.
D'accord.
Et là, les asperges, alors que ce n'est pas notre consommation, c'est une consommation habituelle. Mais pourtant, on est en train d'exporter. Donc, je parle du Pérou, d'exporter de l'eau. Alors qu'ils poussent, en général, dans des lieux où il y a un manque d'eau pour les populations qui vivent dans les environs. Donc, c'est ça l'idée de cet événement, c'est montrer ce qui a... C'est bon? D'accord. Montrer ce qui, voilà, tous ces problématiques. Mais aussi, il y a quelque chose qui est très important et qui est très lié à Alternativa. C'est montrer aussi qu'il y a, en fait, une autre façon de faire les choses. Il y a une autre façon de vivre. Et, par exemple, disons, la culture, la façon de vivre des populations autochtones. Donc, vous avez entendu parler du buen vivir, de la Pachamama. Donc, cette relation à la terre-mère qui est une relation de respect, qui est une relation de... En fait, ce n'est pas une relation d'exploitation ni de se servir. Donc, cette vision de dépendance. En fait, on est partie de la terre-mère et on dépend d'elle et il faut la respecter. Voilà, donc on va aussi montrer toute cette façon de penser, on va parler de ça. Voilà, donc, del buen vivir, je crois que j'ai déjà dit. Mais voilà, je ne sais pas si...
Une petite chose, donc Alternativa Île-de-France, donc c'est ce collectif... va poursuivre après son action après la COP 20. Et qu'est-ce que ça va devenir après ?
Oui, Alternativa Île-de-France, elle travaille à fond pour les villages des alternatives en septembre 2015, les 26 et 27 septembre, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Voilà. Je pense.
Donc, les groupes Alternativa COP 20 finissent... Je ne sais rien, hein, parce qu'en fait, c'est un mouvement. Un mouvement est toujours en construction. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va passer après. Mais en tout cas, en ce moment, notre but, c'était ça. C'était faire ces liens entre l'Amérique latine et, en fait, les liens entre la France et l'Amérique latine, entre les pays riches et les pays du Sud, les pays du Nord et les pays du Sud. Et après, je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, ce que c'est intéressant, c'est qu'en fait, dans cette, il n'y a que le Alternativa Île-de-France et les associations latino-américaines qui sont en train de participer. Il y a aussi un ensemble d'associations qui nous ont rejoints, par exemple pour l'appel du 10 décembre. Donc, il y a plusieurs associations qui vont participer. Donc, jusqu'à maintenant, je pense qu'il doit y avoir plus de 30 associations qui sont en train de participer et dans sa majorité ne font pas partie d'Alternativa Île-de-France. Et c'est ça qui se fait important. Donc, voilà, dans son sein,
Donc là, en fait, je constate, en fait, c'est un peu un des credos d'Alternativa. Non, la convergence des luttes, c'est un peu... Et aussi, si j'ai bien retenu ce que tu m'as dit, en fait, un des buts de l'Alternativa COP 20, c'est de montrer que ce n'est pas de la charité que de s'occuper des gens dans les pays du Sud, mais bien de montrer que c'est une nécessité pour les gens ici, puisque nous faisons tous partie d'une même machine qui broie, qui affecte toute l'humanité, en fait. C'est bien ça.
Oui, oui. Donc, c'est vrai que la charité n'est pas du tout dans nos idées. Je connais les gens qui font partie des associations latino-américaines qui participent, et ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est la réunification, la lutte par rapport à ce qu'on suit là-bas. Et oui, c'est ça.
Et donc, on va finir l'émission. Si on veut avoir donc plus d'informations, trouver le programme, on va où ?
Il faut aller au site web d'Alternativa Île-de-France. Et là, il y a un lien Alternativa COP 20. Donc, il faut cliquer sur ces liens et puis...
D'accord. Donc, le site internet, c'est alternativa.eu/IDF. Si je me rappelle bien, c'est parce que j'étais déjà allé voir...
De toute façon, on tape Alternativa Île-de-France, donc on le trouve tout de suite.
Ouais, avec Internet, de toute façon, on peut tout trouver.
Exactement, voilà.
Bon, donc merci beaucoup, en tout cas, Dalila, pour ces informations.
En fait, très clair, nous ne sommes pas en lien, peut-être je ne m'étais pas bien exprimée au début, pas du tout en lien avec la COP officielle.
Donc, d'accord, donc, ça t'est clairement d'accord, bien compris, je pense.
Donc, pas du tout en lien avec la COP officielle. Au contraire, voilà, donc déjà, pour le Pérou, c'est un peu c'est le tourisme. Donc, ils sont en train de profiter de ces côtés-là. Et alors que, par exemple, les normes environnementales se sont affaiblies dernièrement. Voilà, donc au Pérou. au nom de en fait, de donner davantage à l'investissement étranger. Voilà, c'est ça.
D'accord. Donc, Alternatiba, donc Île-de-France, qui n'a vraiment rien à voir avec la COP officielle et qui est une alternative, on pourrait dire, avec cette COP, enfin, par rapport à cette COP officielle, qui est plutôt en lien donc avec le sommet donc des peuples.
Oui.
Donc au Pérou. Et donc qui promeut justement des solutions alternatives. Donc du coup, bon, bah, on arrive à la fin de cette émission. Merci donc Rwanara, merci Dalila,
merci
à Cyril qui est à la technique. Et on enchaîne et comme on dit donc à la bande à Bébert, pour finir, salutations écologiques et solidaires.
Et merci.
Mais voyons, c'est toujours un plaisir d'accueillir des personnes comme vous. Et s'il y a des choses encore à dire, la porte est ouverte à Zoom Écologie.